Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Raconte ta parentalité. Parents, c'est le plus beau métier du monde, alors pourquoi ne pas la raconter? Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie d'Aboubacar. Salut Aboubacar, comment tu vas?
Ça va et toi?
Ça va très bien, merci. Est-ce que tu veux bien te présenter?
Aboubacar Sakanoko, bientôt 44 ans, né à Étampes dans le 91, grandi, évolué à Grigny pendant 33 ans, on va dire. Depuis, j'habite à Massy. Dans le social depuis 25 ans, je viens de m'en rendre compte il y a peu en parlant avec mon gars au béret, chez Massengo. Dans l'associatif depuis 98, dans les médias depuis près de 10 ans, et jadis je faisais l'artiste, j'ai fait ça pendant 15-17 ans, je crois, peut-être 20 ans.
Quand tu dis tu faisais l'artiste, tu rappais?
Ouais, je faisais le mec qui rappait, tu vois.
C'est-à-dire si on cherche un peu sur YouTube, on peut retrouver des morceaux.
On peut retrouver des trucs, hein, tu vois. Et un morceau d'ailleurs trop vieux pour toutes ces conneries qui était révélateur de ce qui allait se passer après.
Est-ce que tu veux bien nous parler de ton cercle familial? Est-ce que t'es papa ou pas? Et dans quel style de famille t'as grandi?
Oui, papa de deux filles. Rama, 15 ans, et Kumba, 8 ans. Famille sénégalaise, issue de Tambacounda au Sénégal. On a grandi à Grigny. À un moment donné, ma mère est partie en 99. Mon père l'a rejoint en 2004. À la base, on était 5. En 2004, est née ma petite sœur Fatou, qui d'ailleurs, il faut que je retrouve, car ça fait belle lurette que nous ne l'avons pas vue, d'ailleurs, depuis qu'elle est bébé. Ça, c'est encore un autre combat.
Et, au Sénégal, voilà. Ou ici?
En France, en France, dans le nord de la France. Là. Il faut absolument que j'aille la retrouver, là. Ça ne serait tardé. Donc, du coup, on est 6, c'est ça? 3 garçons. Non, 6, 7. 3 garçons et 4 filles, c'est ça.
T'as vécu avec tes deux parents? Ils sont encore ensemble?
Ouais, ils sont encore ensemble. À un moment donné, il y a eu une séparation en 2000. Enfin, en 99-2000, mais c'était une séparation...
De courte durée.
Ouais, c'est ça. Ça a duré le temps d'un petit conflit. Voilà, il y a eu des conflits, mais le temps d'un conflit qui a fait que mon père il est resté à Grigny. Ma mère est partie habiter dans 94, à Villiers-sur-Marne, en 99. Et moi, en fait, tous mes frères et sœurs, après, il y a mon frère Mamadi qui est resté avec moi parce qu'il était encore à l'école à Ris-Orangis à l'époque. Mmh. Et moi, je suis mis à travailler. Donc, du coup, moi, je suis resté plus dans le secteur vu que j'étais devenu médiateur après avoir fait des études de commerce. Je suis devenu médiateur sur Évry. Donc, du coup, pour moi, c'était plus simple d'habiter à Grigny avec mon père. Et mes autres frères et sœurs sont partis habiter avec ma mère dans le 94. Donc, moi, j'y allais de temps en temps. C'est là-bas que j'ai rencontré des Nesbill, tout ça. Qui rappait dans des fêtes de quartier.
Il rappait mieux que toi ou pas?
C'est quand on l'a vu, je suis arrivé vers chez moi, j'ai dit les gars, il y a dissident là, fête de quartier, j'ai dit les gars, c'est chaud.
En tout cas, dans ce que tu viens de dire dans ta présentation, je pense qu'il va y avoir plein de choses intéressantes et de parallèles à faire sur l'éducation et sur notre rôle de parent, comment on allie cette vie bien chargée avec son rôle de papa. Mais avant ça, on aimerait savoir qui était Aboubacar, le petit garçon. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance, comment tu as vécu cette enfance, les souvenirs que tu as, que tu étais proche de tes parents ou pas? Raconte-nous un peu qui était Aboubacar.
Aboubacar, petit, jeune, qui a grandi dans les années 80. Donc du coup, ayant grandi dans les années 80, moi j'ai beaucoup de souvenirs avec beaucoup de Français blancs. Tu vois, souvent j'en parle dans des émissions, les quartiers avant, ils étaient majoritairement blancs. C'est-à-dire, on était très peu, on était la seule famille sénégalaise du quartier de l'Ellipse à la Grande Borne. Du coup, après, il y avait quelques familles antillaises, quelques familles maghrébines, mais tout le reste était des blancs prolétaires ou d'une autre classe sociale. Donc, du coup, je me souviens d'un Sébastien Bruxelles qui venait manger du tchakri chez nous. Dominique qui habitait au premier étage. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte avec le temps qu'il aimait bien réparer des motos. Il était souvent avec un cuir noir. Et je me demande aujourd'hui si c'était pas un blouson noir. Parce que franchement, et super gentil. Hein. Avant, les portes étaient ouvertes. Mmh. Tu pouvais rentrer chez quelqu'un comme ça. Tu t'assois, tu parles. En fait, les Blancs de l'époque, de cette époque-là, ils étaient comme des Africains. Tu vois, c'était genre, on arrive, on se mélange. Il y avait des pique-niques dans des parcs, tu vois. Parce que Grigny, c'est la Grande Borne. C'est... À la base, il y avait deux sorties par bâtiment et des étendues d'herbe. C'est-à-dire, il y a des bâtiments avec des étendues d'herbe dans lesquels... sur ces étendues d'herbe, il y avait des pique-niques, du poisson grillé... Voilà, tout le monde emmenait ce qu'il pouvait emmener. Les enfants jouaient à côté. Donc, moi, j'avais ma tante Zara, qui, paix à son âme, qui est décédée depuis, et d'autres tantes qui venaient chez moi tous les jours. Donc, du coup, on a vécu une enfance très... éducation collective. Hein. Donc, tout le monde élevait tout le monde. Et franchement, Grigny, en plus, c'était reconnu. Enfin, en tout cas, lorsque Émile Ayot a... Si j'ai mon avis sur tout ce business de l'architecture, c'était la cité des enfants. Donc, du coup... Franchement, nous, on a des souvenirs d'enfance où l'amusement, l'innocence. Mmh.
Dans le lien, du coup, je comprends bien que tu as évolué dans une famille où il y avait du monde. Tu parles d'une éducation collective. Est-ce que tu te souviens du rapport que tu avais avec ta mère et ton père avant même d'avoir une relation avec les oncles, tantes? Est-ce que tu étais plus proche de ta mère, plus proche de ton père? Qui est-ce qui était la figure d'autorité, s'il y en avait une? Qui posait le cadre? Qui prenait les décisions?
En fait, ma mère, au début, ne travaillait pas quand elle arrivait. Ensuite, elle s'est mise à travailler. Après, moi, je l'ai découvert en faisant des missions avec mon père et mes oncles, disons les choses. Où je ne savais pas que mon père et ma mère, à un moment donné, ils avaient travaillé ensemble à faire le ménage quand ma mère est arrivée. Mais moi, quand mes parents sont arrivés, en fait, ils n'avaient pas d'appartement. Du coup, souvent, les Africains, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient habiter chez quelqu'un d'autre, ou les papas, quand ils arrivaient, ils habitaient ils allaient dans les foyers, Sonacotra ou autre, à l'époque, tu vois. Donc, du coup, quand mon oncle, il est arrivé, mon père, il est arrivé, il a cherché notre grand-oncle, le frère de mon grand-père ici, et un jour, il s'assoit dans un bar ou je ne sais où, et il demande à quelqu'un, oui, est-ce que vous connaissez Bassi Sao Fofana? Bah oui, voilà, il dort dans la même chambre que moi, tu vois. Donc du coup, mon père, il a retrouvé mon grand-oncle.
Mon co-détenu.
Et du coup, de là, mon père, à un moment donné, il s'est mis à travailler. Et du coup, il a emmené maman et ma mère. J'ai un de mes oncles qui était déjà là, qui a parlé du fait qu'il a un de ses amis des temples qui avait son frère et sa femme qui vivaient chez eux. Mais à l'époque, les Africains n'aimaient pas rester tout seuls chez eux, tu vois. Ils aimaient bien être vraiment en groupe. Du coup, mon oncle a proposé à mon autre oncle si ma mère et mon père pouvaient venir vivre à Étampes avec eux, tu vois. Donc, du coup, ils sont venus vivre à Étampes. C'est pour ça que je suis né à Étampes. Et à un moment donné, en plus, cet oncle-là, Bokar Camara, il ne pouvait pas, avec sa femme, n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et du coup, au contact de ma mère et de mon père, ils ont eu un enfant. Amadou, mon cousin, et en fait, lui et moi, on a grandi dans le même berceau. Et du coup, au bout d'un an, ils ont trouvé un appartement à la Grande Borne. Et mon père, il me dit, et ma mère, ils me disent, lorsqu'ils sont partis, ils ne voulaient même pas qu'ils partent, mes oncles et mes tantes. Ils ont pleuré, ils ont dit, non, restez, restez. Tu vois, à l'époque, c'était une autre époque. Hein. Mm-hmm. Aujourd'hui, même dans les familles, on a tendance à être en mode voilà, tu restes un peu trop longtemps chez moi, tu vois, même si je te le dis pas. Mais là, ils voulaient rester avec nous.
Et c'est important ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, c'est des non-dits, mais quand tu héberges quelqu'un, il y a un moment où tu commences à dire ça commence à être long, commence à te chercher. Et toi, ce que tu as ressenti, en tout cas dans ce que tu racontes, c'est que c'était l'inverse. On voulait vivre ensemble.
Ouais, c'est ça, à l'époque. Bon, je t'ai dit, j'ai grandi dans mon enfance, c'est tous les vendredis, tout le monde se réunissait chez mes parents. Parce que mes parents, c'était les deux aînés des deux familles, Sakanuku, Fofana. Donc, du coup, tout le monde venait. Et pendant les vacances, tous les enfants cousins, là, on allait tous à Grigny. À un moment donné, on passait 15 jours à Chartres, 15 jours dans une autre ville. Et c'était comme ça, en fait. On a grandi. Moi, mes cousins, quand je les vois, tu vois, Sakanoko, des Fofana, des Sadiaku, on se ressemble tous. Mais on a tous grandi ensemble. Donc quand on se voit, on rigole, parce qu'on a dormi tous dans les mêmes lits. avec les cousines qui dormaient dans une autre chambre, les cousins dormaient tous dans la même chambre, on était au moins 10, on se réveillait comme ça, et après moi j'étais l'un des plus grands, donc je devais aller chercher le pain pour tout le monde. Et je me rends compte que le matin, on se levait, les dimanches, on était au moins 20 dans la maison. Et il y avait au moins 50 baguettes. Je me dis, mais c'est...
Est-ce qu'on n'étouffe pas par moment?
Je pense. Mais quand on est enfant, nous, on ne capte pas qu'on étouffe. Tu vois?
Mais maintenant, avec le recul?
Avec le recul, je me dis qu'à un moment donné, lorsqu'on est arrivé dans les années 90 et quelques, on a vu qu'avec mes frères, on n'était jamais seul dans notre chambre, tu vois. Toujours un oncle, toujours ci, toujours ça. Et on arrivait à une époque où, financièrement, ça devenait compliqué pour tout le monde, tu vois. Donc, c'est vraiment ça qui a fait que les gens se sont moins vus et que l'éducation collective, elle a diminué. Tu vois, elle a même bien comme il faut. Et elle survit encore, grâce à certains, mais c'est plus comme avant.
C'est plus comme avant. Mais du coup, comment on fait quand, comment on évolue dans ton souvenir, dans ce dont tu te souviens, quand il y a autant d'adultes? Parce que souvent, on dit que plusieurs adultes dans la même maison, c'est pas possible. Là, tu es en train de nous expliquer que bah, du coup, il y a plusieurs adultes qui vivent ensemble. Comment ça se passe au niveau des décisions? Parce que du coup, quand tu veux sortir, tu demandes à qui? Au premier oncle, la première tante que tu vois? Ou est-ce qu'il y a quand même... comment tes parents, du coup, comment ta maman, ton papa font pour rester ceux qui fixent le cadre? Est-ce qu'ils fixent le cadre? Ou est-ce que du coup, c'est le premier adulte que tu croises qui dit oui ou non?
En vrai, on sait que... Même si ça a l'air désorganisé, en tout cas dans certaines de nos familles africaines, en réalité, c'est organisé. Le chef de la maison, c'était mon père. Donc la semaine, on était principalement que la famille. Après, j'avais ma tante Maïmouna qui est venue, qui nous a rejoints dans les années 80 et qui... parce que voilà, à un moment donné, ma mère, elle a fait, voilà, il fallait faire venir quelqu'un pour aider ma mère à nous garder parce qu'elle s'est mise à travailler. Donc du coup, y a ma tante qui a débarqué. Et d'ailleurs... pour la petite anecdote, j'ai capté que ma tante était ma tante des années après. Tu vois, je pensais que c'était ma sœur pendant des années.
Sérieux?
Et un jour, ma mère et ma tante, elles parlent. Je vois que, je sais pas, je crois qu'elles parlaient de leur mère. Je dis, mais Moulin, t'es la sœur de maman. Eh ben oui. Et j'étais là, elle m'a dit, mais... Et je l'ai regardée, j'ai dit, ah oui, mais je crois que t'étais ma sœur depuis. Et en fait, je me suis rendu compte, je crois, dans la cuisine. J'ai dit, ah bon, d'accord.
Et ça veut dire que quand ta tante, elle arrive... Personne t'explique que c'est ta tante?
Non, tu sais, moi je suis arrivé en 4, j'avais 6-7 ans. Moi, j'étais petit, donc moi je la vois arriver, je me dis, bon, c'est une de nos sœurs, tu vois. C'est vrai que je me souviens même pas du moment où elle est arrivée, tu vois, en vérité, tu vois. Tellement pour moi, c'était
elle
évident
qu'elle
a toujours été là, tu vois. Et du coup, on m'a pas expliqué, moi, que c'était ma tante, tu vois. Pour moi, c'était notre sœur.
Mais du coup, attends, quand tu passes du statut de sœur à tante, c'est pas la même chose. Ça veut dire que, tu vois, quand tu te chamailles avec ta sœur, tu peux pas te chamailler de la même façon avec ta tante. Ça se passe comment après, une fois que tu le sais?
Mais un coup de pression, elle m'a dit, maintenant, tu t'attends, t'as compris? Tu vois? Et en plus, elle rigolait pas avec nous. Tu vois, elle était... C'est elle qui nous a appris avec ses copines à faire le ménage, à nous lever le matin, enfin, pendant les vacances, tous ensemble, les cousins, on était formés à faire le ménage. Tu vois? Elle nous a bien formés avec... tout ensemble, tu vois. Donc c'était tout un concept. Tout un concept.
Ouais, tu m'étonnes. Tu grandis, les années passent. Comment était Aboubacar adolescent? La scolarité? Est-ce que tu étais un enfant obéissant? Est-ce que tu étais un enfant vadrouilleur? Parce qu'aujourd'hui, tu es la vadrouille. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou pas?
Non, moi, j'étais... Tu sais, quand on est dans nos familles, on te conscientise hein, sur le fait d'être l'aîné, tu vois. Donc du coup, depuis que t'es petit, on te fait comprendre que t'es l'aîné. Donc tu dois avoir une certaine posture, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc je me souviens qu'à 12 ans, c'est là qu'on m'a fait... voilà, mes parents un jour sont sortis, ils m'ont dit, pour la première fois, là, c'est toi qui vas rester tout seul avec tes frères et sœurs et tu vas les garder. J'étais là, j'ai la pression, tu vois. J'étais là, genre, c'était le test, tu vois. Du coup, je me souviens
T'étais
content? Ouais, j'étais content, mais j'avais peur. Je me suis dit, ah ouais, c'est la première fois qu'on reste tout seul comme ça. Et du coup, je me souviens que mes parents, quand ils sont rentrés de faire des courses ou je ne sais plus où ils sont partis, et j'ai oublié la clé de l'autre côté de la serrure. Ils m'ont dit, mais... Donc en fait, moi, je croyais que j'avais tout bien fait.
Toi, t'étais fier, tu vois.
Je dis, ah, c'est bon, là, j'ai gardé tout le monde, tout ça.
Tout s'est bien passé.
Alors, tout a été chamboulé, comme mon père m'a dit, mais t'as laissé la porte de l'autre côté, tout aussi. Il m'a grondé, je dis, bon. Je ferai attention la prochaine fois. Tu vois.
Mais sinon, tout s'est bien passé.
Ouais, ça va, ça va. Après, moi, j'étais plutôt... moi, j'étais rêveur, moi, tu vois. Donc, à la base, moi, je suis quelqu'un qui dessine, tu vois. Donc, ma tante aussi, elle dessinait, donc je l'ai copié. Après, j'avais des gars aussi avec qui j'ai grandi, Michel Vang et plein d'autres qui dessinaient. Donc, moi, j'essayais de les imiter, donc je me suis mis à dessiner. Donc, moi, je faisais des bandes dessinées, moi. J'ai plein de bandes dessinées, moi, où j'achetais du papier canson, même des cahiers canson, où j'ai des bandes dessinées, j'achetais des crayons de couleur, et moi, je passais mon temps à dessiner. En fait, j'étais entre être entouré par pas mal d'amis et m'isoler dans ma chambre à dessiner, ouvrir la fenêtre et je dessine. Et je copie plein de trucs, tu vois. C'est, je fais des scénarios, les Marvel, DC Comics, Dragon Ball Z, je mélange tout, je fais un super-héros, boum boum. Et... Donc, moi, je suis un mec qui, à la base, dessine.
Et du coup, c'est quelque chose que tu as gardé, ça ?
Ça m'arrive, hein, de temps en temps, de dessiner quelques trucs. D'ailleurs, j'ai prêté mes bandes dessinées à Kofi, il faut que tu me les rendes, tu vois. Parce que j'aimerais bien après les mettre
Kofi,
sur...
Kofi, si tu nous écoutes, ramène les bandes dessinées.
Ramène les bandes dessinées, mon frère, tu vois. Et voilà, et d'ailleurs, je pense que j'aimerais bien les publier sur Instagram, tu vois. Parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vues, ces bandes dessinées, tu vois. Et du coup, voilà, j'étais rêveur, donc des fois, même carrément, je dessinais dans le vent. C'est quand je dis dans le vent, c'est-à-dire, je faisais ça. Tu vois, je dessinais comme
ah
ça.
Ouais,
je faisais okay. Ça, et je voyais des visages. Les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu fais ? Et moi, je voyais, tu sais, j'étais un rêveur, moi. Tu vois, je rêvais.
T'as jamais pensé à faire carrière dans le dessin ?
Bah, mon oncle Bollon, un jour, m'a inscrit à Angoulême. Tu vois, j'ai envoyé des. Je sais plus comment on appelle ça, là. Des... Voilà, j'ai envoyé.
Des exemplaires.
Voilà,
de ce que
voilà, exactement. J'ai dessiné un truc exprès. Bon, apparemment, ça n'a pas forcément plu, mais il me disait, ouais, tu peux faire quelque chose. Tout, tu vois. Et moi, je voulais faire l'école boule.
OK.
À l'époque, tu vois. Mais lorsque j'ai eu mon accident de hanche, enfin, après, moi, j'ai eu un accident de vélo qui a fait que je me suis fait opérer de la hanche.
T'avais quel âge ?
J'avais 15 ans.
Tu nous racontes ?
Ouais, c'est nous, à l'époque, on aimait bien vadrouiller. Hein. On vadrouillait en vélo pendant l'été. On se donnait rendez-vous à 14h à l'ellipse avec tout le monde. Avec mes gars, et puis on aimait bien vadrouiller, aller en vélo et descendre des pentes bien,
bien raides.
Bien raides. Et je me souviens, j'étais avec mon gars Olivier Coco, et lui et moi, on s'assied sur le même, sur la même selle, sans frein, et on descendait ça comme ça.
Ah oui.
Et non, on était super dangereux ce qu'on faisait. Et en plus, le pire, c'est que t'arrivais au bout de la pente, il y avait une intersection. Donc des voitures qui passaient comme ça, et nous, on faisait en sorte de s'arrêter avant. Donc moi, je faisais. Je mettais mon pied, là, ma basket, en guise de frein.
D'accord.
Donc, c'était vraiment...
Là, tu l'as dit tout à l'heure, l'insouciance, quoi.
Ah non, non, mais insouciance totale. Et un jour, en fait, on a descendu une pente. Mais cette pente-là, la route était pleine de pavés, comme à Paris. Tu vois.
Ah.
Et du coup, à un moment donné, on n'arrive plus à freiner. Donc, moi, j'essaie de freiner. Et je me souviens que j'avais des Air Pegasus. Et je freine avec mon pied, comme ça, là, sur la roue. Ça fait des étincelles. Pah ! Ma bulle d'air, elle est partie. Et là, on n'arrive plus à s'arrêter. Donc, du coup, mon gars Coco, il m'a dit... Moi, je vais foncer sur la borne qui est devant nous. J'ai dit, fais pas ça. Je me suis mis de la scène, tu vois. On fonce.
Il voulait volontairement foncer dedans
pour
qu'on
s'arrête. Pour qu'on s'arrête. J'ai dit, mais fais pas ça. Il a foncé dessus. Bah
et... on rigole, mais c'est pas drôle.
Et lui et moi, on a fait un salto. Et on a atterri. Bah, lui, il a atterri sur l'épaule. Moi, j'ai atterri sur les fesses. Après, je crois que lui, le vélo m'est tombé dessus avec lui. Du coup, pour le coup, moi, j'avais rien eu pour l'instant, enfin, sur le coup. Et lui, il a vu l'épaule cassée, donc il est parti à l'hôpital. Mais quelques mois après, ou quelques semaines, moi, j'ai commencé à avoir des problèmes de hanche. Du coup, ça a traîné.
Du coup, tes parents, ils sont au courant à ce moment-là que tu es tombé en vélo, ou tu le dis pas ?
Je sais plus. Ouais, si, ils sont au courant. Parce qu'on est parti, et voilà, lui, il est parti à l'hôpital avec sa mère. Et, et après, quelques mois après, j'ai commencé à avoir ma hanche qui me faisait mal.
Mais on ne fait pas forcément le lien.
Mais ouais, puis on se dit, bon, je connais les papas africains, ils se disent, bon, ouais, ça va passer, ils massent, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Mais en 95, un jour, j'arrivais plus à marcher, je me couchais dans le lit de mes parents, je dormais pendant toute la journée, et à un moment donné, on est parti à l'hôpital de Villeneuve-Saint-Jean, et ils ont dit, monsieur, votre col du fémur est déplacé, et si votre fils continue à marcher, il va devenir handicapé. Donc du coup, ils m'ont dit, opération la semaine prochaine. Donc du coup, ils m'ont opéré, mais ils m'ont dit que vous allez vous faire opérer aussi du deuxième col du fémur. Parce qu'en fait, à force d'avoir sollicité le col du fémur droit, il lui aussi est défaillant. Donc du coup, je me suis fait opérer des deux cols du fémur, je crois le jour même. Et du coup, ils m'ont blagué. Hein. Ils m'ont dit, ouais, monsieur, vous inquiétez pas. Monsieur, j'étais un petit, ils m'ont dit, t'inquiète pas, fiston, tu vas rester 3 semaines à l'hôpital. Voilà, tu vas rester 3 semaines, tu vas faire de la rééducation, ça, et dans 3 semaines, t'es chez toi.
C'est pas passé
opéré,
comme ça.
Je me suis réveillé, j'ai vu des structures métalliques sur mes deux jambes. Et en fait, je suis resté 6 mois à l'hôpital de centre de rééducation à Saint-Fargeau-Pontierry. Et là, j'ai rencontré j'aime pas dire ça, mais un autre monde. Enfin, un monde qui... Après, j'ai créé ma bande là-bas, tu vois. Mais le monde des gens en situation de handicap. Mmh. Du coup, là-bas, je dessinais aussi. J'ai fait une bande de potes. On traînait comme ça. Moi, j'avais un lit roulant. Mmh. Et en fait, à chacune de mes jambes, aux extrémités, parce que j'avais une jambe qui était devenue plus petite que l'autre, j'avais des poids pour que mes deux jambes, enfin en tout cas mes deux jambes, elles se rééquilibrent au niveau de la longueur, tu vois. Et j'ai rencontré un gars qui avait le même problème que moi là-bas, Steve Martin, que j'ai eu au téléphone il y a à peine quelques semaines. Ça fait au moins 25 ans que je ne l'ai pas vu, tu vois. Du coup, là-bas, j'ai créé une bande d'amis, voilà, comme au quartier, tu vois. Et j'ai des très beaux souvenirs là-bas, tu vois.
C'est très fort ce que tu racontes, parce que même quand on te connaît, si tu le racontes pas, on le sait pas. Mmh. Si on n'était pas avec toi à cet âge-là, on peut pas le savoir. Du coup, il y a quand même deux choses dans ce que tu dis. Il y a l'importance de sensibiliser nos enfants. C'est tout bête, mais tu vois, le vélo sans frein. Combien de gamins roulent avec un vélo sans frein et combien de parents le savent en disant mais fais attention, mais ça peut avoir quand même des conséquences dramatiques. Le trauma, du coup, quand tu te réveilles, t'es traumatisé.
C'est ça. J'ai des réveils de l'opération où je me réveille et je vois une structure métallique sur mes jambes. Mais t'étais dans un état euphorique, toi. Ils t'ont mis de la morphine, tout est comme ça. Et je vois mes parents. J'ai des souvenirs où je vois ma mère en train de me regarder, mon père comme ça, mes frères et sœurs. Bon, ça va. Et je me rendors. Je vomis, je me rendors. Le temps d'émerger, tu vois. C'est des flashs comme ça, tu vois. Je me dis, ouais, c'est...
Qu'est-ce que tu lis dans le regard de tes parents à ce moment-là? Est-ce que tu lis de l'espoir, de l'inquiétude, de la peur?
Ma mère...
Parce que pour eux aussi, c'est impressionnant de voir son enfant dans cet état-là.
Ma mère, elle avait peur, elle me regarde. Tu vois, tu connais, je vomis, donc elle met quelque chose. Tac, elle me regarde. Mon père, il est là, il me regarde. Il est là. Je vois mes frères et sœurs, ils me regardent tous. Bon, ça va, tu vas bien. Tu te rendors, tu te réveilles, tu te rendors, tu te réveilles. C'est vrai que tu vois que les gens que t'aimes, ils sont autour de toi. Mmh. Tu vois, t'es là, c'est pour ça que moi, mes frères et sœurs, à vie, hein, je serai là pour vous.
Comment tes parents font en sorte que tu poursuives ta scolarité? Est-ce que ça s'arrête? Est-ce que t'as le souvenir de l'école à l'hôpital?
Ouais, est-ce que c'était un centre de rééducation? Du coup, là-bas, je suivais l'école, mais... Et moi, j'ai redoublé ma sixième, parce que franchement, ma première sixième, elle était catastrophique. Tu vois, je suis arrivé au collège, et d'ailleurs, ça m'a perturbé le collège, parce que j'ai vu que c'était différent de la primaire. Et on m'avait dit, on est de l'époque où pour nous, le collège, c'est que t'es comme aux États-Unis, là, avec des casiers, tout ça. Tu vois,
on regardait les films
américains. Voilà, et du coup, t'arrives là-bas et tu te rends compte que c'est autre chose. Et du coup, ma deuxième sixième, d'ailleurs, j'ai rencontré mon gars Bi, champion de breakdance hier, et qui me disait, c'est là avec lui que j'ai fait ma deuxième sixième, et il me parlait de comment j'étais avec lui, je m'en souvenais même pas, tu vois. Et du coup, j'étais studieux, tu veux dire, de sixième, cinquième, studieux, mais malheureusement, lorsque j'ai eu mon accident, le fait de ne pas avoir été à l'école pendant 3-4 mois, ça m'a bouleversé. Donc, du coup, j'étais plus dans cette dynamique de travailler à l'école comme je le faisais, là, tu sais, carrément, j'étais devenu studieux, je rentrais chez moi, je faisais mes devoirs, j'étais carré. Tu vois, et la quatrième, apparemment, c'est la classe la plus difficile du collège. Là, j'ai eu des lacunes, tu vois. Même quand je suis arrivé en troisième, j'ai commencé à avoir des lacunes, tu vois. Et j'ai un petit souvenir là, c'est vraiment une parenthèse. En fait, en cinquième, j'avais fait une cinquième vidéo où c'était spécialisé dans la vidéo.
Tu avais déjà un attrait pour les médias?
Ouais, apparemment, c'est peut-être un attrait. Ouais, ça fait peut-être écho à ce qui se passe aujourd'hui, peut-être, tu vois.
Est-ce que tu te souviens de ta 17e année? J'aime bien m'arrêter sur la 17e parce que c'est à l'aube de la majorité. Est-ce que déjà dans ton cercle familial, à 18 ans, devient vraiment majeur ou pas? Et qu'est-ce qui se joue juste avant ta 18e année, juste avant d'être un jeune adulte? Est-ce que on peut s'arrêter sur cette année-là et faire une petite introspection?
1997, je me souviens.
Est à l'année.
Ah ouais, c'est le rap. Je rentre dans le rap par accident, toujours. Un gars à moi qui s'appelle Serge. Enfin, à l'époque, nous, on a commencé à écouter du rap en 91. On était à fond. T'sais, on écoutait, on échangeait des cassettes. J'ai mon gars Serge qui me fournissait en cassette. mon gars Crimo qui me fournissait aussi en son, on faisait des concours d'enceinte, de fenêtre à fenêtre. Regarde, moi j'ai chronique de Dr. Dre, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Tu vois. Du coup, 1997, à un moment donné, ben, j'ai des gars à moi qui se mettent à rapper, pas forcément sérieusement, tu vois. Mais et du coup, moi je les regarde, ils rappent, je les regarde. Puis à un moment donné, il y en a un gars à nous qui devient DJ, et qui était enfin DJ depuis 96 ou 95. Et on va chez lui et pour nous, c'est magique ce qu'on voit. On le voit en train de mixer, pour nous, c'est fou. Et à un moment donné, il a son anniversaire, je me souviens, où il a filmé d'ailleurs, et on, je sais pas, on rappait sur le crime paix, on rappait sur expression directe, sur des sons, tu vois. Et à un moment donné, il nous dit, hey, les gars, j'ai un texte, mais fermez vos yeux, parce que faut pas que, voilà, faut pas que vous sachiez où il se trouve ce texte. Donc du coup, moi, je le regarde, et je fais style que je ferme mes yeux, mais son texte était caché derrière son poster. Et du coup, il prend son texte, il commence à la rapper, et on est là, on dit « Ah ouais, chaud !» Bon, malheureusement, lorsqu'on est parti de chez lui, je lui ai emprunté ce texte, tu vois. Et du coup, ouais, je me suis mis à rapper son texte chez moi, et c'est là que j'ai commencé à écrire des textes, tu vois. Et du coup, 97, vraiment, ça symbolise l'année où je me suis mis à rapper. Et aussi l'année où, à Grigny, il y a vraiment un changement par rapport au fait que toutes ces rixes interquartiers ont mené malheureusement à la mort de quelqu'un d'un quartier adverse. Et là, la solidarité grignoise l'ambiance grignoise a vraiment changé parce que ça a eu des répercussions, ce décès suite à des...
Sur le bien vivre ensemble
sur ouais, la cohésion même des jeunes de Grigny qui étaient dehors à cette époque-là. Il y a eu un changement, il y a un avant et un après 1997, ouais, 96-97. Ouais.
Du coup, toi, tu étais dans le rap, mais tu étais impliqué dans les bagarres. Est-ce que tu as participé à cette période-là, du coup, aux tensions? Est-ce que...
Même pas. Nous, on était plus posés avec mes gars. On avait notre équipe qui s'appelait le CDR, qui de base, c'est à un moment donné, on s'appelait CDR, même GDR, les gars du rond, parce que nous, on traînait dans un endroit où il y avait une espèce de grand rond. Et nous, on faisait, quand on était petit, on avait 6-7 ans, on faisait du vélo tout autour. Pour nous, c'était super grand. Hein. Je devais faire du vélo pendant je ne sais pas combien de temps et faire du foot dans ce même rond où ce rond-là était. Voilà, il y avait des espèces de démarcations en triangle. Donc, du coup, on avait inventé un jeu qui s'appelait le triangle. Tu vois, et la dernière fois, j'y étais il y a peu et. Je me suis rendu compte que des petits jouent au triangle, tu vois, et c'est nous qui l'avons inventé ce jeu-là, tu vois. Et du coup, en fait, nous, on était plus des gars tranquilles. Donc, du coup, à un moment donné, on s'appelait GDR, on s'appelait les gars du rond, les gars tranquilles de Grigny, nous, on était tranquilles.
Vous alliez à contresens.
Ouais, c'est ça.
Et est-ce que tu te souviens, du coup, cette période où il y a des tensions, est-ce que tu te souviens de tes parents, ta tante notamment, est-ce qu'ils vous sensibilisaient, est-ce qu'ils te mettaient en garde? Ou est-ce qu'ils étaient à 1000 km en fait, de ce qui pouvait se passer dans la ville? Est-ce que tu as l'impression que tes parents, ils savaient ce qui était en train de se jouer?
Ma tante, elle était partie depuis 93.
Donc elle n'était déjà plus là.
Elle n'était plus là. Mes parents, ils captaient ce qui se passait parce qu'ils ne voulaient pas qu'on sorte la nuit.
Ouais, voilà.
Mon père, il me disait, la nuit, c'est pour les voyous, ne sors pas. Et du coup... des fois, bon, j'essayais de ma mère, elle essayait de me couvrir tout. Et moi, des fois, même je pleurais, je disais, mais comment ça, il va pas me laisser aller en soirée, moi, tout le monde y va. Et en fait, mon père, il captait ce qui se passait dehors, tu vois, il était là. Et en fait, ce moment-là, même pour en avoir parlé avec des amis récemment, même dans les quartiers, c'est un thème qu'il faut qu'on développe lors de débats, d'émissions, c'est la fin des années 90. C'est une période charnière pour beaucoup de gens des quartiers qui traînaient dehors comme nous. Nous, on a été des gars tranquilles, mais après, on va dire, dans l'échelle de la délinquance, on était tout en bas. On a fait des choses que certains ont fait dans les quartiers, mais que certains n'ont pas forcément fait non plus. Tu vois. Mais on n'était pas reconnus à Green comme étant des voyous. Nous, on était reconnus comme étant des gars tranquilles qui débattaient à l'ellipse, faisaient des matchs de foot interquartier. Donc, je parle vraiment de mes gars du CDR, Clan Duron, Communauté Découverte Racine, avec d'autres. Tu vois. On était vraiment des gars qui... Voilà, après, on s'est mis à aller au gymnase parce qu'on avait des grands, les grands frères de nos gars, Fabrice qui allait au gymnase avec Zedek et d'autres. Donc, on allait faire du basket avec eux. Et du coup, ils nous encadraient sans vraiment nous le dire, tu vois. Nous, on les suivait. Tu vois, on aimait bien regarder, aller faire du basket avec Serge et d'autres. Et mais du coup, même, quand même, quand on a participé à cette, entre guillemets, un peu de délinquance, à Grigny, on n'était pas reconnu comme tel, tu vois. J'aime bien dire, nous à Grigny, on est les les plus gentils des méchants. Tu vois, parce que Grigny est reconnu comme...
Vous étiez quand même méchant, alors.
Non, non, Grigny est reconnu comme... oui, ah, les gens sont méchants là-bas, que non, les gens sont très gentils. Mais voilà, j'aime bien dire ça ironiquement. Nous, on était reconnus comme étant des gentils, tu vois. Donc, et du coup, après, on s'est mis à rapper, donc ça nous a donné un autre statut. Avant, ouais, pendant qu'on a rappé, on s'est mis à créer une association qui était vraiment centrée sur l'Afrique et les connaissances. Donc, ça nous a donné un autre statut de Black Panther, de rappeur. Et du coup, on a eu du respect vis-à-vis de ça, même si on avait déjà du respect avant, mais on était plus dans l'anonymat, tu vois, on était plus à se fondre dans la masse. Mais l'Ellipse, ça a toujours été la Suisse, tu vois, à Grigny, tu vois. On avait même un code d'honneur où il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire, il faut représenter, il faut lever la tête, et tout ça, tu vois, comme les Black Panthers, tu vois.
Ouais, mais tu vois, là, ce que tu viens de dire sur le code d'honneur, avant de passer sur ta projection en tant que parent, c'est important. Est-ce que, du coup, tu pourrais dire que, à ce moment-là, le fait d'avoir ce code d'honneur en disant tu lèves la tête, tu es respectueux, tu fumes pas, tu bois pas, etc., est-ce que ça t'éloigne du mal, entre guillemets?
Ben, c'est ça, en fait. Nous, à l'Ellipse, on était très encadrés par nos parents. Donc, nos parents nous voyaient de la fenêtre. Donc, il y avait la mère de Ludovic qui nous voyait tous, la mère d'un tel. Et en fait, on était sous les yeux de nos parents. Donc, du coup, nous, on avait peur de décevoir nos parents. On avait même peur de nos parents, des coups qu'ils pouvaient nous mettre. Donc, du coup, c'est vrai que. Après, à un moment donné, lorsqu'on a été plus grand, carrément, les lieux dans lesquels on allait, soit on allait chez moi, souvent, soit on allait chez Ludovic, tu vois. Et c'était à l'époque où Canal Satellite est arrivé et tout ça. Et sa mère, elle avait capté qu'il fallait nous laisser le salon pour que Ludovic puisse tous nous accueillir, pour éviter qu'on traîne dehors. Parce que sa mère, elle avait senti que ce qui se passe là, dans les quartiers, c'était pas bon. Tu vois, en tout cas, traîner, comme on dit, hein, ne rien faire, c'est succomber à toutes les tentations. Et malheureusement, dans les quartiers dans lesquels on a grandi, à un moment donné, quand tu traînes trop, tu t'ennuies trop, tu peux vite sombrer. Et on a vu des gars à nous sombrer, et on les a revus en 2008, 2009. Et ils ont fait 10 ans de prison, tu vois. Tout ça parce qu'ils ont, ils ont succombé à la spirale, tu vois.
T'es un jeune adulte. Est-ce que tu te projettes en disant... un jour, je serai père, je veux une famille. Est-ce que tu es un jeune qui aspire à avoir une famille rapidement ou plutôt celui qui se dit ouais, plus tard, le plus tard possible?
Tu sais, ce qui est marrant dans ta question, c'est que, entre guillemets, c'est que j'en parlais avec. Là, récemment, j'ai été à la veillée d'un frère qui a perdu son père. Et du coup, on le connaît tous, le frère. Et du coup. À un moment donné, je parlais avec un gars que j'ai déjà vu de son quartier, mais que je ne connais pas bien, tu vois. Mais du coup, il me disait qu'il venait d'avoir... Voilà, il a un enfant de 3 ans, un enfant de 6 mois. Et on parlait des années 2000, tu vois. Comme quoi, il est né en 80 comme moi. Et je lui disais, mais tu sais que les années 2000, pour nous, c'était assez... Il y a eu trop de choses, en fait. C'est-à-dire, fin des années 90, dans les quartiers, il y a eu une espèce d'élan, en tout cas pour ceux qui traînaient et qui sombraient du côté obscur. Bah, les gars de notre génération des années 80 voulaient faire mieux que les gars du côté obscur, enfin les grands du côté obscur des années d'avant. Donc du coup, ce qui s'est passé dans cette époque-là, c'est que les gars du côté obscur de ma génération ont voulu faire mieux que les gens d'avant et malheureusement ont fait plus de prison, en tout cas pour ceux qui étaient dans le côté obscur, ont fait plus de prison que les grands d'avant. Et du coup, dans ces années-là, c'est des années que j'appelle les années assez froides, parce qu'il y a eu 98, la Coupe du Monde, où après il y a eu la désillusion, Black Blamber. Ensuite, dans les années 2000, malheureusement, 2001, le 11 septembre. En fait, c'est des années assez sombres. C'est-à-dire que même au niveau de se projeter avec une femme, nous, on voulait tous, certains d'entre nous, on voulait. En fait, il y avait des problèmes économiques, il y avait des problèmes d'argent. En fait, on était plus à la recherche d'argent. Donc, ceux qui étaient du côté lumineux travaillaient. Et passer leur temps à chercher du travail ou à peut-être des fois peut-être sombrer dans des addictions, parce qu'il y en a beaucoup qui sont sombrés dans les addictions, sans pour cela que ce soit des addictions à des drogues dures, plutôt douces. Et il y a ceux qui, à un moment donné, malheureusement, ont fait beaucoup de prison, tu vois. Mais ceux qui sont mis à beaucoup travailler voulaient se poser, mais il y a eu un souci dans les rencontres qu'on pouvait faire avec des femmes et ci et ça, parce qu'on n'était plus vraiment dans la même époque.
Ça veut dire, dans ce que tu dis, en tout cas, il y a une période où tu ne te projettes même pas dans une vie familiale, etc., parce que ce besoin de s'épanouir, de travailler, de gagner sa vie est plus important. Mais la question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, bah, justement, ça prend le pas? Est-ce que c'est parce que tu te projettes en te disant, bah, faut déjà que j'ai une situation avant même d'espérer créer une famille, ou pas du tout? Ou c'est vraiment besoin vital, primaire, manger, s'habiller
Bah, en fait, on se projette, mais on est tellement pris par cette course à subvenir à ses besoins que cette projection, elle est prioritaire, mais elle devient secondaire en même temps. Donc, elle était prioritaire, mais secondaire, parce qu'il fallait absolument qu'on... Et moi, je me suis rendu compte il y a quelques temps, là, c'est lorsque les statistiques elles sont tombées, que Grigny, ville la plus pauvre de France en 2017, avec 44,8% de pauvres, en tout cas en termes de regroupement, je me suis rendu compte que dans les années 2000, j'ai nourri les statistiques, moi, de la pauvreté à Grigny, parce que... Quelqu'un qui est reconnu comme étant pauvre, il touche moins de 900 euros. Moi, j'ai été dans cette statistique-là où tu touches moins de 900 euros et du coup, j'ai nourri les statistiques en termes de pauvreté à Grigny, tu vois, en tout cas dans les années 2000. Du coup, voilà, t'es dans une course à vouloir, en tout cas, subvenir à tes besoins et tu fais pas forcément de rencontres, tu vois, et tu restes beaucoup dans ton cocon, tu sais, là où t'es en sécurité et là où tu peux aller travailler, faire de la sécu ici et là, et tu fais des rencontres. Mais en même temps, on était aussi dans une autre époque, tu vois. Et 2000, c'est l'année de Love Story aussi. La société, elle a vraiment changé à ce moment-là, tu vois. Et du coup, il y a plein de gens de notre génération qui se sentaient perdus dans ces années-là, tu vois.
À quel moment, du coup, tu te projettes? Est-ce que tu te projettes ou est-ce que c'est la rencontre avec la mère de Rama qui va te propulser? Est-ce que tu t'étais projeté avant? Ou est-ce que c'est la rencontre avec la mère de ta première fille qui va te propulser dans la parentalité?
En fait, en vérité, ces années-là, comme je t'ai dit, c'est les années d'entraide. C'est-à-dire, moi, j'étais dans une démarche où même tu te mets avec quelqu'un, on est dans une démarche, on se met ensemble, mais on s'entraide. Donc du coup, avec la mère de Rama, c'était une relation de couple qui s'entraide, tu vois. Donc c'était un mélange d'amicalité, mais ça se dit pas d'amicalité, mais d'amitié et de on est en couple. Et du coup, à un moment donné, bah, Rama est arrivée, tu vois. Elle est arrivée comme ça, tu vois. Et quand elle est arrivée, bah, y a eu des problèmes qui sont survenus à ce moment-là, tu vois.
Donc, votre rencontre, elle commence par... une entraide, une amitié forte.
C'est ça.
Et comment on bascule de l'amitié solidaire?
Bah en fait, je dis entraide, amitié forte, mais en étant en couple en fait.
Vous étiez déjà en couple.
C'est ça. Okay. Déjà en couple.
Du coup, vous êtes en couple, vous traversez les épreuves de la vie.
C'est ça.
Pourquoi elle? Pourquoi tu l'as choisie elle? Qu'est-ce qui te plaît chez elle?
Moi, j'ai vu en elle beaucoup de, comment dire, de la fragilité, mais en même temps de la force et en même temps un bon cœur. Moi, c'est ce que j'ai perçu en elle. Tu vois. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me suis rapproché d'elle parce que, comme je t'ai dit, ces années 2000, c'était des années assez... On s'est senti fragile. En fait, on avait besoin d'être avec des gens qui... Parce qu'on parle souvent... Il y a souvent ce stéréotype où, oui, la femme a besoin d'être en sécurité, mais... En fait, nous, les hommes aussi, on a besoin d'être en sécurité, en fait. Tu vois, quand on se met avec une femme et qu'on se met en couple avec elle, on a besoin de se sentir en sécurité, tu vois. Et du coup...
Elle est sécurisante à ce moment-là?
Ouais, à ce moment-là, voilà, c'est ça. C'est... Voilà, tu te sens sécurisé, tu te sens dans une espèce de cocon dans lequel, en tout cas, ce petit monde que tu t'es... que tu t'es créé, en tout cas, c'est un monde dans lequel tu es à l'aise, tu vois.
La grossesse, première grossesse, comment ça se passe? Elle est voulue, elle arrive, toc, 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 je suis là.
Bah, c'est, on va dire, toc, 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 je suis là. Et du coup, en fait, on va être transparent, tu vois. Quand ça arrive, à un moment donné, c'est là qu'elle et moi rentrons dans une situation de conflit.
D'accord.
Il y avait déjà des conflits avant, tu vois. Et du coup, avant même que la grossesse arrive, on s'était déjà séparés, en vérité, tu vois.
D'accord.
Du coup, c'est là que la situation, c'est, on va dire, quelque peu... c'était envenimé, mais... du coup, voilà, il y a cette situation de conflit. Et malheureusement, dû à cette situation de conflit, Bon, je vais être clair, hein, moi je n'ai pas assumé mon rôle. Tu vois, j'ai comment dire, j'ai été irresponsable. Tu vois, moi, aujourd'hui, je suis clair.
Ouais, mais est-ce que la colère que tu as à ce moment-là ne prend pas le dessus sur la grossesse, la parentalité? Tu as quel âge à cette
j'ai
période?
J'ai 29 ans.
29 ans. C'est-à-dire que tu as 29 ans. Est-ce qu'à 29 ans, le fait d'être en conflit avec son conjoint ne prend pas le dessus sur la place d'un père, le rôle d'un père, etc. Et du coup, je voudrais faire juste un petit bond en arrière. Est-ce que dans l'éducation que tu as reçue, on te prépare à être papa, à être chef de famille, à avoir ta famille, la responsabilité que c'est le moment où ton partenaire t'annonce qu'il est enceinte et qu'elle va garder cette grossesse? Ça veut dire que le couple perdure ou pas, de fait, tu seras père. Est-ce que tu es sensibilisé à ça? Est-ce que c'est important pour toi? Ou est-ce que tu n'as pas l'impression plutôt que cette responsabilité que tu ne prends pas, c'est peut-être parce que tu ne la mesures pas aussi?
Bah, en fait, on en discutait dans un débat il y a peu, il me semble, à parentalité. Et dans ce débat-là, on disait comme quoi on ne nous prépare pas. Mais moi, je crois qu'on nous prépare sans nous préparer, mais on nous prépare quand même, mais on ne nous prépare pas assez.
Explique-nous tout ça.
Bah, c'est-à-dire qu'on a vu nos parents, comment ils ont évolué. Tu vois. C'est-à-dire que tout n'était pas parfait, mais on a vu qu'il y avait un rôle. Tu vois, le rôle du père, le rôle de la mère et le rôle des enfants. Et du coup, même à travers des exemples de nos familles, moi, mon grand-oncle Bassissao, moi, quand j'allais passer des vacances là-bas, à un moment donné, nos parents et avec ma tante, ils nous ont tous emmenés là-bas. Tu vois, pour un peu comme c'était, sans nous le dire, mais enfin, si, je crois, ils nous l'ont dit, c'était pour nous recadrer un peu et que voilà, notre oncle et notre tante, Yai, notre grande-tante, du coup, en fait, ils nous recadrent. C'est-à-dire, voilà, lui nous apprenait plein de choses, notamment concernant la spiritualité, il nous donnait des conseils. Et en fait, c'était lui le chef de notre grande famille, c'était lui. Parce que c'est le frère de mon grand-père. Donc, du coup, lui, quand il y avait des conflits même dans nos familles, je voyais des oncles et des tantes ou mon père et ma mère, alors que c'était en conflit, lorsque lui, il arrivait, il apaisait tout. Il arrivait, il parlait. Mes parents, je les voyais comme des enfants. Être là, baisser la tête et rien dire. Parce que.
Il incarnait l'autorité.
Exactement. On a ce privilège en Afrique de. Il y a des hiérarchies et on respecte les aînés. Et lorsque les aînés parlent et qu'ils sont justes, eh ben, tout le monde obéit, tout le monde. Voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on ne nous a pas préparé en vérité. Tu vois. Assez, ou même. Voilà. Parce que nos parents sont aussi d'une autre culture. Et là, nous, on a grandi dans la culture occidentale. Mmh. Et du coup, nos parents, lorsque eux ont eu des enfants, ce n'était pas dans le même cadre que nous. C'est-à-dire, eux, tout était programmé. C'est-à-dire, je me marie, je suis né pour me marier avec quelqu'un. Ça se trouve, mais à un moment même que je naisse...
Je suis déjà promise.
Voilà, exactement, je suis déjà promise. Mais il y a un jour, on te le dit quand tu es petite. Et un jour, voilà, il arrive. Et il y a une délégation qui arrive. Mmh. Et ça y est, c'est parti. Voilà, c'est ton futur mari. Et si et ça, tu vois. Je ne dis pas que je cautionne cet non. état de fait, mais c'est mais un état de fait. Tu vois.
Du coup, là, je suis en train de me poser la question pour essayer de faire un pont et comprendre. À ce moment-là, ton ex-conjointe t'annonce qu'elle est enceinte. Toi, tu prends un peu la fuite. Est-ce que tu as des souvenirs de quand ta maman était enceinte? Comment se conduisait ton père? Est-ce que c'était une grossesse qui passe comme si de rien n'était? Ou est-ce qu'il y avait des marques d'attention? Est-ce que tu sentais qu'il y avait, il était en train de se passer quelque chose, quoi, je vais devenir père? Ou pas du tout? Ou ça a passé inaperçu?
Nous, on n'a pas beaucoup d'années d'écart. Ma sœur est née en 81, moi je suis née en 80, mon frère est née en 83. Mon autre frère est née en 85, mon autre sœur est née en 86.
Ouais. En fait, t'étais trop petit.
Ouais, c'est trop petit pour capter tout ça, tu vois. Donc, je me souviens de quand ils étaient bébés, tous. Ma sœur qui est en 86, j'allais la chercher à l'école. Après, il y a eu Yaï Siré qui est en 97, et je la promenais même. Elle ne s'en souvient pas, mais je la promenais dans les bus et je la présentais à tous mes gars. Parce que je me souviens que c'est nous qui avons dit à nos parents ce serait bien que vous fassiez un autre enfant. Tu vois, on les a incités, ils ont fait Yaï Siré, tu vois. Et du coup, on a 17 ans d'écart, tu vois, avec ma sœur Yaï, tu vois. Et c'est vrai, je ne me souviens pas de ces marques d'attention, j'étais trop petit, tu vois, je ne m'en souviens pas. Mais
D'accord. Quand tu dis que tu ne prends pas tes responsabilités, tu es présent, pour les temps forts de la grossesse, ou à partir du moment où elle t'annonce qu'elle est enceinte, elle fait toute sa grossesse toute seule jusqu'au terme, jusqu'à l'accouchement, Ou est-ce que tu es là quand même?
Bah, en fait, le truc, c'est que malheureusement, il y a eu des conflits avant la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse. Et du coup, à un moment donné, elle est venue avec la petite.
Donc, tu n'as pas suivi la grossesse en...
J'ai rien suivi.
Ok. Donc, elle vient avec la petite. Donc, elle a accouché sans toi.
Voilà. Elle vient avec la petite. Quand elle vient avec la petite, à un moment donné, bah, il se trouve que voilà, c'est encore une situation de conflit quand elle arrive.
Quel âge a la petite à ce moment-là?
La petite, elle était toute petite. Hein, elle devait avoir quelques semaines, enfin quelques mois, je pense. Tu vois. Mm. Du coup, comme par hasard, quand elle vient à Grigny ce jour-là, il y a ma mère qui est chez ma sœur. Donc, ma mère débarque. Ma mère, elle vient, elle prend la petite et elles vont parler ensemble. Donc, du coup, à un moment donné, il y a des accords qui se font. Tu vois, par le biais de ma mère. Donc, du coup, moi, à un moment donné, la petite, elle vient chez mes parents, mon père. Parce que moi, j'avais ce truc où j'avais peur. Et vu qu'il n'était pas marié, je me suis dit, mon père, est-ce que... Tu vois, mais bon, j'avais quand même 29, 30 ans. Donc, bah, mon père, ça y est, il voit que je suis un homme. Donc, ça arrive, tu vois. Donc, du coup, à un moment donné, moi, je prends la responsabilité de, vas-y, c'est bon. On va gérer, on va assumer. Après, il y a des choses qui m'ont déplu. Tu vois, voilà, des choses qui m'ont déplu. Donc, du coup, et je voyais que la situation de... Voilà, c'est, comment dire, les conflits revenaient. Donc du coup, j'ai pris la décision, une malheureuse décision de « on coupe ». Donc j'ai dit à mes parents « on coupe, je coupe, et vas-y ». Et voilà, je pense que c'était des décisions liées aussi au manque de maturité et tout ça, tu vois. Donc du coup, j'ai coupé pendant un certain nombre d'années. J'ai laissé couler, j'ai fait ma vie, j'ai continué. Après, elle m'envoyait des photos, hein. Je me souviens qu'une fois, elle m'envoyait une photo sur Facebook, je vois, je tombe dessus, ok. Un jour, je m'en vais.
Qu'est-ce que tu ressens quand tu reçois
ça? Ça m'a fait un choc. Tu vois, j'ai vu la petite qui me ressemblait. Je dis, hey, ça m'a fait un choc, tu vois. Et du coup, j'avais des amis qui me disaient même, Bouba. Parce qu'en fait, elle avait des liens avec des amis à moi qui me disent, certains d'entre eux, à des moments donnés, venaient, enfin, m'envoyaient des messages. On me dit, Bouba, c'est comment? Voilà, un de mes gars qui m'appelle du canal, Bouba, ça dit quoi? Moi, je disais, non. Franchement, les gars, pas pour l'instant. Parce que franchement, il y a eu trop d'antécédents et non. Un autre gars de Grigny, pareil, il me contacte. Je sais plus qui encore me contacte. J'ai dit non, je laisse.
Tu veux pas être père à ce moment-là?
Mais c'est pas que je veux pas être père, c'est que je veux pas vivre. C'est pas que je veux pas être père en fait, c'est que je veux pas vivre le conflit. Tu vois, il y a trop de. C'était trop. Tu vois, il y a trop de. C'était trop. C'était des appels, des choses. C'était trop. J'ai dit non, c'est pas possible. Tu vois. Et malheureusement, c'est une mauvaise décision que j'ai prise, tu vois. J'aurais dû apaiser, me poser, lui dire, bon, arrête d'être si véhémente, calme-toi. Et... J'aurais dû faire le sage. Mais...
L'émotion était trop forte.
Ouais, c'était... Enfin, voilà. Aujourd'hui... Je ne maîtrisais pas mes émotions. Enfin, je n'arrivais pas à maîtriser mes émotions. En tout cas, certaines émotions, lorsque on s'en prenait à moi, je n'arrivais pas à maîtriser mes émotions. Enfin...
Tu peux comment pas dire, passer je, outre, en fait.
Je n'arrive pas à passer outre. T'es ma fierté, mon orgueil, il était là. Et du coup, je ne suis pas de ceux qui vont venir comment dire, s'en prendre physiquement à qui que ce soit, femme ou homme. Donc, je me tais. Je reste dans mon coin, silence radio. Je ne bouge plus.
Rama, elle réapparaît dans ta vie. À quel moment? Aujourd'hui, est-ce qu'elle est dans ta vie ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce que tu es son papa ou est-ce que tu es son géniteur?
Bah, elle réapparaît lorsque Kumba naît. Lorsque Kumba naît en 2016, à un moment donné, j'ai une prise...
Ils ont combien d'écart, les deux?
Ils ont 7 ans d'écart. Ouais, c'est ça, 7 ans. Donc, du coup, j'ai une prise de conscience. Et je me dis, mais il est temps, frère. Et une amie qui a voulu me mettre en lien avec la mère de Rama à l'époque, je passe par elle. Et boum, quand je passe par elle, je vois que le moment de Rama, les rapports ont changé. Je vois que c'est ça y est, ça s'est pacifié, que le temps est passé, l'âge... Du coup, je la vois toute positive. Donc, je dis, vas-y, c'est parti. Donc, du coup, je fais un rendez-vous avec Rama, on discute. Elle avait 7 ans.
Elle avait 7 ans.
Donc, je vais manger avec elle. Et du coup, je lui dis, mais si tu veux, voilà, moi, je suis ton père. Je n'étais pas là.
Tu lui annonces comme ça? Ça veut dire la première rencontre?
Elle le savait. Okay. C'est vrai que c'est son père. Elle savait. Donc, sa mère lui avait déjà dit, ouais, tu vas voir ton père, tout. Donc, je lui dis, je n'étais pas là pendant 7 ans. Je m'en excuse, je te demande pardon. Maintenant, si tu ne veux pas poursuivre avec moi, je te comprendrai. Elle avait 7 ans et j'ai vu dans ses yeux qu'elle a dit non, 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 moi c'est bon. Mmh. Elle avait 7 ans, hein, tu vois, elle est mature, Rama, tu vois. Je me rends compte qu'à 7 ans, elle a une maturité que même Kumba n'a pas, tu vois. Elle était là, elle était déjà comme ça en train de me regarder, en train de dire non, non, moi c'est bon. Non, 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 moi je veux qu'on reste en lien, non, je veux tout ça. Donc, du coup, je reste en lien avec elle jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, et
à quel âge aujourd'hui?
Elle a 15 ans.
Okay.
Tu vois, 15 ans. Bon, après, il y a peu, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, il y a peu, je pense qu'elle a eu une espèce de prise de conscience où elle s'est dit, mais attends, il n'était pas là pendant 7 ans, mais comment ça? Tu vois, parce qu'elle vit sa période d'adolescence. Donc, du coup, voilà, il y a peu, je vois qu'elle commence un peu à m'esquiver.
Elle le reproche? Elle te parle?
Bah, sa maman m'a fait part du fait que, qu'il y a très certainement le fait que tu n'étais pas là pendant 7 ans et que peut-être que ça lui, comment dire, il y a des émotions qui ressurgissent.
Elle a quel âge, Kumba?
Kumba, elle a 8 ans maintenant, là.
Ok. Mm. C'est-à-dire que quand elle regarde sa sœur, est-ce que tu penses qu'elle peut se dire tout ce que tu fais là, tout ce que tu partages comme moment avec Kumba, ce sont des moments que tu n'as pas partagé avec moi?
Je pense. Je pense qu'il y a ça. Et je l'ai vu là, il y a 2-3 jours. Je l'ai vu. Par contre, quand c'est pour me demander de l'argent, t'inquiète, hein, là tu m'appelles.
Il y a deux qui se respectent.
Ah là.
Avant d'approfondir sur ça, on a parlé de Kumba, mais on n'a pas parlé de comment elle est venue au monde. Mm-hmm. Comment tu rencontres la maman de Kumba? Comment les choses se passent? Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Même question.
Tu sais, ma vie, c'est des... J'allais dire montagnes russes, mais... Vu qu'il y a un Congolais en face de moi, c'est des montagnes congolaises. Tu vois. Donc en fait... Moi, je vous ai rencontré, tu vois, avec Anne, dans une autre vie. Dans une autre vie où j'étais avec quelqu'un qui avait déjà des enfants. Et voilà, j'ai assumé aussi. Parce que c'est, voilà, ce qui est paradoxal avec moi, c'est que j'ai... Vraiment, si je fais ce témoignage par rapport à Rama, c'est peut-être pour conscientiser certaines personnes, tu vois. Mm. Et c'est vraiment pas pour glorifier ou dire pour...
Non, c'est important.
C'est important parce qu'il y a des gens qui n'assument pas leurs responsabilités. Mais le truc, c'est que moi, je suis revenu. Et du coup, c'était peut-être pour inviter des gens qui pourraient écouter cette émission à revenir. Ouais. Peu importe ce qui se passe. Moi, j'ai un ami, pareil, il voit pas sa fille, mais c'est de son fait et aussi peut-être du fait de la mère de sa fille. Mais je lui dis, reviens, frère. Parce que tu vois, les années que tu passes là à pas voir ta fille... Je lui dis, faut pas que tu deviennes comme moi, entre guillemets. Tu vois. C'est-à-dire, les enfants, ils ont de la mémoire. Ils ont des souvenirs et de la mémoire. Il faut absolument que tu restes en lien avec ta fille. Parce que moi, si c'était à refaire, il y a des choses que je referais. Il y a plein de choses que je ne referais pas. Notamment ça. C'est-à-dire, pas être assez mature pour... j'étais pas assez mature pour assumer mes responsabilités. Tu vois, alors que je pouvais, mais j'étais pas assez mature, j'arrivais pas à gérer mon orgueil à ce moment-là, tu vois. Moi, lorsque ça dépasse, enfin, en tout cas à l'époque, en tout cas lorsque ça dépassait l'entendement en termes de respect, au lieu d'être dans un rapport conflictuel en tout cas ou violent, moi je suis de ceux qui se taisent, je me tais et silence radio. Donc du coup, voilà, moi je vous ai rencontré dans une autre vie où j'étais avec quelqu'un où paradoxalement je me suis occupé de ses enfants alors que c'était pas mes enfants.
C'est dur de s'occuper des enfants de son conjoint quand c'est pas tes enfants?
La chose, c'est que moi, je suis parti dans... À l'époque, j'étais dans un concept. Tu vois, ça va être très... En fait, j'étais dans un concept crash test. Et je m'explique.
Crash test. On a 8 minutes.
Voilà.
On va faire du crash test.
Exactement.
Ok, vas-y.
Crash test. Donc, du coup, ouais, lorsque il y a des campagnes pour la sécurité routière où la voiture, elle fonce et qu'il y a des espèces de mannequins, crash test, pas. Moi, j'étais là-dedans.
Ok.
Donc, j'avais 33 ans. Je me suis dit, c'est quoi? Voilà, je rencontre une femme qui, à un moment donné, lors d'un événement, je suis sensibilisé par ce qu'elle me raconte, par sa vie. Donc, du coup, je me dis, ah ouais, forte, battante et tout ça.
T'aimes les femmes fortes et battantes.
Ouais, et qui ont des fêlures, tu vois, et plein de... Voilà, et du coup, je me dis, je vais... Voilà, et du coup, moi, sur le coup, moi, j'étais pas en mode quoi que ce soit. Hein. C'est après, en fil en aiguille, les choses se sont faites. Du coup, lorsque je me suis mis avec elle, j'avais même des amis qui me disaient, mais what, est-ce que t'es sûr? Mais qu'une femme qui a déjà des enfants avec des...
Combien papas... d'enfants?
3 enfants avec deux papas différents. Les gars, ils me disaient, mais frère, t'as 33 ans, pourquoi tu te... Voilà, ils me disent, enfin, je le dis comme on me le disait, hein. Pourquoi tu te mets avec une femme qui a déjà des enfants alors que toi, t'as pas d'enfants et tu pourrais être avec une femme qui a pas d'enfants? Et
Mais
et je leur ai dit, les gars.
C'est étrange comme.
Ouais, c'est ça. Et c'est étrange parce qu'à côté, bah, t'assumes pas. Tu vois, donc du coup, j'assume d'autres enfants naturellement. Et en fait, je vais dans un concept où, en vérité, c'est des choses que j'ai déjà vues. Mmh. C'est-à-dire, souvent en Afrique, on a des grands-parents et des parents qui ont adopté des enfants. Mmh. Tu vois, qui se sont occupés d'eux, même si c'était pas leurs enfants de sang. Et du coup, moi, j'étais dans ce truc-là où me dire que. Et je vais m'en occuper et je m'en suis occupé. Hein. Je me souviens d'avoir transmis diverses choses. Je ne sais pas si elles sont restées aujourd'hui. Mais voilà, c'est quelqu'un qui avait des fêlures et plein de cassures sur le plan émotionnel. Et du coup, bah, moi, en fait, comme je t'ai dit, crash test. Je me suis dit, si ça ne marche pas, de toute manière, bah, j'ai 33 ans. C'est comme si, voilà, c'est comme si voilà, je me marie, mais c'est comme si je sortais avec quelqu'un. Bon, ça casse. Je, comment
dire ? Pourquoi tu te maries systématiquement alors ? Si bah, c'est crash test.
Ouais.
Ça veut dire que quand tu décides de te marier, ouais, sachant que tu es plutôt crash test, est-ce que tu désacralises pas quelque part le mariage, en fait, ce qui est censé symboliser le mariage? Ou est-ce qu'à ce moment-là, tu y crois?
Non, mais moi, j'y crois à ce moment-là. J'y crois, mais je me dis que si je me... Arrête, bon, moi, je suis dans un autre concept. Oh là là, je sais pas si je peux dire ça ici. Oui, mais... tu vois. Tu sais, on est issu de familles où, moi, par exemple, moi, j'ai de côté de ma mère, j'ai deux, trois grands-mères du côté de. Donc, nous, avoir des familles avec des femmes, voilà. Et tout, comment dire, avec des familles organisées, avec plusieurs femmes et plusieurs enfants, moi, c'est pas un concept qui me gêne, si vous voyez ce que je veux dire.
Ouais.
Donc, du coup, moi, j'étais dans ce truc-là à me dire que je vais essayer de... En fait, j'ai confondu mes missions de boulot à vouloir accompagner les gens cassés
avec le rôle
avec,
de ta femme.
Avec, comment dire, avec mes missions en privé. Mmh. En fait, j'ai tout confondu, moi.
C'est-à-dire qu'en gros, parce que tu l'as dit plusieurs fois, tu aimes des femmes qui représentent quelque chose de fort avec des fêlures, comme si tu avais un rôle de réparer.
Voilà, c'est ça. Essayer de les réparer.
De vous auto-réparer.
Ouais.
Mais... Donc, maintenant, t'en as conscience.
Ouais. J'ai fait la même avec la mère de Kumba. Donc, en fait, lorsque c'est fini avec cette femme, direct, j'ai rencontré la mère de Kumba. Et du coup, j'étais...
Elle aussi a des fêlures, du coup, à ce moment-là.
Pareil, des fêlures. Donc, elle me raconte un peu ce qui se passe dans sa vie. Elle a des fêlures. Donc, du coup, je me dis, je vais essayer de la réparer. Mais en vérité, je m'en suis rendu compte en discutant avec des frères, des sœurs et autres. Soit t'es le mari, soit t'es le psy.
C'est ça. Et est-ce que, quelque part... dans tout ce que tu dis, est-ce que finalement c'est pas toi que t'as besoin de réparer?
Je pense. T'as vu, je. Oh là, tu poses une vraie question là.
Là, on n'aura pas le temps d'aller au bout, mais finalement, quand je te pose cette question, c'est aussi comme tu disais tout à l'heure, pour que les auditeurs puissent se poser la même question. Finalement, la réponse, elle est intime. Elle te regarde toi. Elle n'a pas besoin d'être étalée ici, mais de te poser la question à toi en privé, toi et ton toi. Est-ce que c'est pas toi que tu essayes de réparer quand tu vas chercher systématiquement des femmes qui ont des parcours avec des fêlures, des brisures qui te semblent fragiles, alors qu'elles le sont peut-être pas, mais en tout cas qui te semblent fragiles? Le fait que tu sois attiré par ce type de femme et que, avec du recul, tu dises crash test, c'est comme si, de fait, tu ne veux pas forcément la réussite de ta vie familiale. Crash test. Je prends quelque chose, je sais que ça ne peut pas tenir, je répare, mais quand c'est réparé, je ne reste pas, je cherche quelqu'un d'autre à soigner, en fait. Donc,
en fait, si ça avait marché, mon plan aurait marché, entre guillemets.
Ouais.
Si ça avait marché, je serais encore avec certainement ces
c'est-à-dire
personnes-là.
Pour toi, c'est important de tomber sur une femme qui puisse être brisée, en tout cas, qui puisse avoir des fêlures, d'être celui qui va réparer pour pouvoir vivre une relation avec quelqu'un qui te regarde avec les yeux de « t'es mon sauveur ». Parce que si tu me répares avant que notre relation puisse aboutir, est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'une crise identitaire aussi que toi, tu peux avoir, qui va faire que automatiquement, elle te regarde comme « tu es mon sauveur ».
En réalité, c'est plus
nuancé. Il m'a sauvé la vie.
Que moi, je suis vraiment pas... Comment dire, c'est vrai qu'on pourrait apparenter mes pratiques, entre guillemets, au syndrome du sauveur. Il y a ça, mais j'attends pas à ce que tu me regardes comme étant ton sauveur. Tu sais, je sais pas.
Mais inévitablement.
Peut-être que c'est dans l'inconscient, peut-être. Hein,
parce que inévitablement, quelqu'un qui me sauve.
Et en fait, je pense que j'ai, à l'époque, hein, aujourd'hui, c'est beaucoup moins comme ça. J'avais besoin de quelqu'un qui avait besoin de moi.
Ouais, d'accord.
Voilà, c'est ça en fait. Si t'as besoin de moi, je suis là. En fait, moi, c'est dans ma vie. Enfin, tu t'es dit, j'ai tout confondu. J'ai confondu mes relations amicales avec mes relations amoureuses. Où moi, j'ai besoin qu'on ait besoin de moi. Par exemple, je peux rester dans mon coin. C'est pour ça que je m'auto-proclame Black Bruce Wayne, Batman, Luke Cage. C'est-à-dire.
C'est important.
C'est-à-dire que moi, par exemple, là à cette heure-ci, un peu moins aujourd'hui. Voilà, moi, je vis solo chez moi. Jusqu'à un certain moment, même jusqu'à aujourd'hui, peut-être des fois, je reste habillé chez moi jusqu'à 22h, 22h30, 23h. Et je me dis, on ne sait jamais si on m'appelle.
Mais
tel un Black Justice.
C'est marrant et on a encore plein de trucs à se dire en off, mais tu te rends compte, ça veut dire que. Et en vrai, quand tu le dis, ça sonne tellement vrai. Ce truc d'avoir besoin, qu'on ait besoin de toi. Et finalement, ceux qui te connaissent savent que ton téléphone n'arrête pas de sonner parce que les gens ont besoin de toi. Donc, les gens ont bien compris ça. Mais comment on peut vivre sa vie, s'épanouir dans son couple, sa vie familiale, éduquer ses enfants, si on a constamment besoin d'être au secours des autres? Est-ce que tu es au secours de tes propres enfants?
Oui. C'est-à-dire que les cordonniers sont le plus mal chaussé. Mais en l'occurrence, moi, je suis de ceux qui, lorsqu'il ne se passe quelque chose dans ma famille, c'est moi qui règle. C'est-à-dire que les mères de mes filles, j'ai réglé des problèmes dans leur famille à elles. J'ai réglé des problèmes dans ma famille à moi. C'est-à-dire mes frères et sœurs, ils ont besoin de moi, même si je suis le grand frère qui, en fait, mon ombre plane. Mais lorsqu'il y a des grands problèmes, c'est Bouba qui règle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, moi, je suis là même pour mes enfants. C'est-à-dire que même les mères de mes filles, aujourd'hui, elles peuvent en témoigner. Bien sûr, j'ai diverses activités. Mais elles savent, tu sais, voilà, il y a peu, la mère de Rama a appelé, enfin la mère de Kumba a appelé ma mère pour lui dire, mais même s'il y avait eu des situations conflictuelles, aujourd'hui, elle-même, elle témoigne, elle dit, ouais, c'est un bon père. La mère de Rama, elle sait les problèmes que j'ai réglés, même avec, parce qu'elle a d'autres enfants qui ne sont pas les miens. J'ai réglé des problèmes de leur famille, j'ai pris du temps à chaque fois, tu vois. C'est-à-dire que j'estime ne pas donner assez de temps.
Quoique Kumba, elle est souvent dans tes pattes.
Ouais, souvent, sur Kumba.
Tous ceux qui te connaissent, tu es tout le temps en train de dire il faut que j'aille chercher Kumba, je vais déposer Kumba. Elle est souvent là.
Elle est souvent avec moi, Kumba. C'est-à-dire, elle est même dans des vidéos, même. Dans des débats publics où tu vois Kumba. Par exemple, on avait fait un espèce de débat public là où j'ai grandi, au Ronde d'Ellipse, avec Assa Traoré. Ils faisaient les retournées des quartiers. Kumba, pendant toute l'émission, elle est assise sur les genoux d'Assa Traoré. Et elle est là, posée. Et là, elle vit l'interview avec nous. Moi, je l'emmenais partout, Kumba. Même Rama, à un moment donné, tu vois, je l'emmenais, si, là. Et après, moi, là, sa période d'adolescence qui font qu'elle est avec ses copines et tout ça, tu vois. Mais comme j'ai dit, Rama, moi, je l'ai vue il y a 2 jours. D'elle-même, elle m'a dit, papa, est-ce que tu peux me laisser Kumba
Elles ont des liens forts.
Ouais, là, il y a des liens. Enfin, elles ont des liens, mais après, peut-être pas assez forts aujourd'hui, mais... Elle-même, elle est là, elle a dit à sa mère il y a peu, elle me l'a dit à moi, elle m'a dit, oui, laisse-moi Kumba des mercredis et vas-y, je vais aller avec mes copines avec elle, on va aller à la tête dans les nuages, on va aller manger, tout ça, je dis, t'inquiète pas, mercredi prochain, je te la ramène. Donc là, elle commence à prendre conscience, même la dernière fois que je l'ai vue, j'ai vu qu'elle avait changé, même, tu vois, dans son ton, dans sa manière d'être.
Elle a besoin d'être là, d'être une grande sœur, et peut-être de pas abandonner elle-même sa petite sœur.
Exactement, sa mère, elle lui a dit, n'abandonne pas ta petite sœur, parce qu'elle va grandir. Donc je pense que. Elle a conscience que l'abandon, c'est pas quelque chose de bon, tu vois.
Qu'est-ce que tu souhaites transmettre à tes enfants?
De l'amour. Qu'ils soient solidaires et qu'ils aient des valeurs. Tu vois, ce que, comme dirait un grand philosophe, le monde est méchant. Et du coup, faut leur donner les armes, tu vois. Et je me rends compte que les filles et les femmes... par expérience, au même âge que beaucoup de garçons, elles sont plus matures, plus fortes.
Qu'est-ce que tu souhaiterais leur épargner?
Franchement, leur épargner la violence. Tu vois, la violence, leur épargner les maux de tête, leur épargner l'abandon, leur épargner les mauvaises ondes.
Aujourd'hui, si tu rencontres une femme et que tu évolues avec elle, qu'est-ce que tu ferais différemment? avec tout ce que tu as pu dire, qu'est-ce que tu aimerais en tout cas essayer de faire différemment avec tout ce qu'on a pu se dire aujourd'hui sur ce côté sauveur? Une femme, elle a besoin d'un mari sécurisant, aimant, rassurant, qui la hisse vers le haut, qui la regarde avec des yeux d'admiration, mais pas forcément d'un sauveur. C'est à double tranchant, une femme qui recherche un sauveur, elle aussi, elle a des choses à réparer, etc. Ça peut fonctionner, mais dans la longévité, c'est qui tout double. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'as appris de tes erreurs? C'est quoi ta promesse pour la prochaine?
Vous savez, la prochaine, elle est déjà là. Sérieux.
Donc, quelle est ta promesse pour elle?
La chose, c'est que ce que j'ai décrit du Booba, de le Booba que j'ai décrit, c'est le Booba d'avant-hier.
D'accord.
Parce qu'en fait, je ne suis plus comme ça. Ça y est, c'est fini. Je ne suis plus en mode... je me mets avec quelqu'un et mon but, c'est de te sauver. Ça y est, c'est fini. Et ça c'est fini depuis,
depuis un moment. Hein. Qu'est-ce qui t'a plu chez ta femme d'aujourd'hui?
Ce qui m'a plu, c'est qu'elle est... au même titre, hein, t'as vu, elles ont, comment dire, elle est généreuse.
Ok.
Généreuse, elle est équilibrée. Mmh. Pour le coup, elle n'a pas ces fêlures-là. Mmh. Et elle est indépendante. Hein.
Ok.
Elle est indépendante. Hein,
Donc déjà, on voit bien que le profil n'est pas du
tout. Non. Après, les mères de mes filles sont indépendantes. T'as vu, elles sont fortes, indépendantes.
Ça, tu l'as dit aussi.
Voilà.
Et du coup...
Mais ma femme, là... Elle n'a pas forcément les fêlures que les mères de mes enfants. Tu vois. Et du coup, je ne suis pas dans cette position de...
De crash test.
Voilà, de crash test. C'est même elle qui...
Ouais.
Je veux dire, heureusement qu'elle existe.
Ok.
Tu vois, c'est même elle qui me soutient,
c'est elle qui te soutient
bien comme il faut. Tu vois.
Et du coup, tu veux des enfants avec elle? T'aimerais?
Ah oui. Il faut même Booba Junior quand même.
Et pour finir, le mot de la fin, à cet enfant... qui on te souhaitera arrivera, quelle est ta promesse de père?
Promesse de père, c'est je vais t'aimer, t'éduquer, te chérir, t'élever et être présent. Tu vois? Et beaucoup plus que je l'ai été pour... parce que voilà, c'est graduel. J'ai pas été assez présent pour Rama, j'ai été un peu plus présent pour Kumba. Et là, il faut que je sois totalement présent pour les autres. Mais je serai totalement présent pour les autres au même titre que, mes, enfants, que mes enfants d'avant. Enfin, que mes enfants qui sont nés avant. Donc en fait, je suis dans une phase d'autorégulation là, tu vois. De régulation et d'autorégulation. Et voilà, ça, toute cette phase-là, tout ce dont on a parlé, c'était vraiment une période d'auto-éducation,
Tu te sens abouti?
Je me sens... j'ai 44 ans bientôt et je me dis, il y a du vécu, il y a de l'expérience. Aujourd'hui, je prends les choses de manière un peu plus légère. Même les conflits, je reste cool. Moins d'orgueil. C'est ta femme, tu dis que tu l'aimes, tu lui envoies des messages. Il faut vivre l'amour. Vivons l'amour.
Merci Booba. Eh bien écoute, on n'a plus qu'à te souhaiter le meilleur dans ta vie de famille comme dans ta vie de parent, de papa. Merci d'être venu témoigner. Merci à Mon Paris FM de nous avoir reçus, de nous prêter l'antenne. Et est-ce que tu as un conseil pour tous les pères qui nous entendent et qui ont le même parcours que toi?
Les amis, quand on est jeune, on a de l'orgueil. Franchement, il faut travailler dessus et être là pour ses enfants. Donc, moi, je suis de ceux qui, à un moment donné, n'ont pas assumé leurs responsabilités. Mais je suis revenu.
Merci. Personne ne doit rester à l'arrêt. Allez, ciao, à plus tard, bye.